sont pas encore sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à demander qu'on vous rajoute. Mon ami, voilà, qui a eu le décès hier soudain de Carlos Payán, que plusieurs connaissent, voilà, du pasteur Carlos Payán, qui est décédé subitement. Il était encore très actif ces derniers jours, et puis il est décédé d'une crise cardiaque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous étonne, nous surprend, mais ouais, j'avais à cœur vraiment de nous encourager à. On n'est pas là pour chercher des raisons ou quoi que ce soit. Dieu, comme on l'a chanté, est celui qui est le maître de la vie, mais aussi celui qui décide du jour de notre départ. Et on veut lui faire confiance, même si on est dans la tristesse, même si c'est difficile, c'est un choc pour tous ceux qui étaient proches de lui. Moi, je l'ai connu quand j'étais déjà jeune, parce que c'était un ami de mes parents. Et bon, voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de voir qu'il est parti comme ça. Et on pense vraiment, ce qu'on veut faire, c'est entourer leur famille aussi, sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, pour qui c'est vraiment un choc quand quelqu'un part comme ça, soudainement, de façon inattendue. Et on veut être avec eux, les entourer, les bénir, prier pour eux. Et puis, voilà, s'en remettre au Seigneur. On sait qu'il est le maître de la vie, celui qui a remporté la victoire sur la mort. Et nous savons que notre frère Carlos, il est auprès de son Seigneur et qu'au dernier jour, il ressuscitera dans un corps renouvelé. C'est là notre espérance. J'invite peut-être juste à prier pour leur famille, pour la famille et pour cela. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours pourquoi tu rappelles si vite, Seigneur, certains de tes enfants, certains de tes serviteurs, Seigneur. Et nous sommes dans le choc, dans la tristesse, mais nous voulons venir vers toi, Seigneur, en sachant que tu es un Dieu bon, un Dieu qui est notre Dieu que nous disons bon, béni, béni l'Éternel. Nous avons chanté ce matin. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance, confiance sur ta souveraineté. Et te prier pour que tu apportes en particulier ta consolation à ceux qui pleurent la perte de ce mari, ce père, ce grand-père, cet ami, ce frère. Seigneur, que tu sois avec eux. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es notre Père céleste qui est là dans les moments difficiles. Toi-même, Jésus, tu as pleuré lorsque ton ami Lazare était décédé. Et Seigneur, nous voulons croire que tu vas être avec la famille de Carlos maintenant, avec tous ceux qui le pleurent, et qu'il y a une présence particulière de ton esprit en ces temps qui viennent. Manifeste encore ta présence et ta douceur, ton esprit dans la vie de chacun. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors ce matin pour le message, on continue une série qui en a débuté il y a quelques semaines, qui est intitulée Être une communauté prophétique, qui est basée sur le livre des Actes et en particulier à partir du texte de la Pentecôte. Dans la Pentecôte, vous savez, depuis ce temps, l'Église est le peuple du Seigneur sur qui a été déversé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a été déversé sur son peuple depuis la Pentecôte il y a 2000 ans, hein. Et cet esprit, ce n'est pas un esprit silencieux, c'est un esprit de prophétie, un esprit qui parle et qui veut nous utiliser aussi pour nous inspirer dans nos paroles, dans nos actes, pour qu'on puisse peut-être aussi avoir des choses à transmettre de la part du Seigneur à d'autres. On a vu que le feu du Saint-Esprit était comme ces lampes torches, on a les langues de feu à la Pentecôte, et qui veut faire de nous ces lumières dans une société, dans un monde où l'obscurité règne. On a encore prié là-dessus hier, on a reçu ce texte d'Ésaïe 60, voilà, brille, brille dans les ténèbres. Le Seigneur nous donne cet encouragement. Lève-toi, resplendis. Et ce matin, je vous propose de nous focaliser sur un aspect particulier de cette dimension prophétique de l'Église, ce sont les signes et prodiges, les miracles. Parce que nous sommes appelés à être une communauté dont le témoignage est accompagné de signes et prodiges. Lorsque le Saint-Esprit est déversé sur son peuple, le jour de la Pentecôte, ils se mettent à parler en diverses langues. L'apôtre Pierre, rappelez-vous, va prendre la parole et va dire: voilà ce qui se passe, voilà l'explication de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite le prophète Joël, un prophète de l'Ancien Testament. Et voici le texte qu'il va citer. On va lire Acte 2, versets 16 à 22. On va relire parce qu'on a déjà lu, mais on va le relire pour se le remémorer. Je ne sais pas si on peut afficher le texte sur le diaporama. Voilà. Et donc l'apôtre Pierre dit, mais c'est ce qui se passe là, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, ce qu'on avait annoncé Joël, ça se réalise là. Qu'est-ce qu'avait dit Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La dernière fois, on a parlé de la prophétie. Ça continue. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Pierre continue au verset 22 en disant, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et puis il va continuer en expliquant que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et monté au ciel. Ça, c'est pour après ce texte-là. Le Saint-Esprit, nous dit ce texte, quand il est déversé sur le peuple de Dieu à la Pentecôte, il fait qu'on va pouvoir prophétiser, c'est comme il est dit, hein, on est appelé à transmettre un message de sa part. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prophète Joël annonce aussi que ça peut s'accompagner de prodiges en haut dans le ciel et de signes en bas sur la terre. On a cette formule, les prodiges et des signes. Et juste après, vous voyez, Pierre enchaîne en disant, rappelez-vous de ce Jésus qui était là il n'y a pas longtemps, hein, il vient de monter au ciel quelques 10 jours plus tôt. Et ce Jésus, il a accompli parmi vous de nombreux signes et prodiges. Et puis ensuite, voilà, il va y avoir la suite de son discours et il y aura une conversion massive de 3 000 personnes ce jour-là, nous dit la suite du texte. Et à la toute fin du chapitre 2 des Actes, on nous parle ensuite de voilà ce qui se passe dans la première église à Jérusalem après cet événement-là. Et voyez ce qui est dit, Acte 2, versets 42 et 43. Dès lors, ils s'attachaient, donc les premiers chrétiens, hein, à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes. Vous voyez, on retrouve encore cette expression. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'Église, le peuple de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, est située dans la suite du Christ, qui a fait des prodiges, des miracles, et elle-même aussi, en son sein, on va voir des prodiges et des signes. Et dans la suite du livre des Actes, vous allez trouver plusieurs fois cette expression signe et prodige pour se référer aux miracles accomplis par les témoins de Jésus-Christ. Lorsqu'ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile, il se produit aussi des miracles et des signes. Et dans les Évangiles, Jésus avait déjà envoyé ses disciples avec ce mot d'ordre en disant « Allez, proclamez la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissez les malades, chassez les démons. » Dans le livre des Actes, on voit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'Église du Christ va répondre à cet appel, à cet ordre de mission. Nous aussi, nous faisons partie de l'Église du Christ en tant que communauté chrétienne du point du jour, hein. Et nous croyons que le Seigneur veut nous envoyer pour proclamer sa bonne nouvelle de son Évangile, une bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, et qui va nous donner, en tant que ses témoins, aussi d'accompagner cette annonce de miracles, de signes et prodiges en son nom. Est-ce qu'en croyons cela? Alors, essayons de comprendre un peu ce que ça signifie pour nous. Parce que j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur cette expression qui est utilisée là. Comment sont appelés les miracles dans ces textes? Ce sont appelés des signes et prodiges. Et d'ailleurs, le mot qu'on traduit par prodige, le mot grec qu'on traduit par prodige en français, c'est quasiment un synonyme du mot signe. Ça veut littéralement, c'est un signe étonnant, un signe prodigieux, un signe surnaturel. Mais comme on ne peut pas traduire des signes et des signes, voilà, on a traduit un peu différemment parce qu'on n'avait pas l'équivalent en français. Ce qui veut dire que les miracles, c'est avant tout des signes. Qu'est-ce que c'est un signe? Ben, les signes, c'est un peu comme un panneau, hein? C'est un acte visible, c'est quelque chose qui est bien visible, qui pointe vers une autre réalité, qu'on ne voit pas peut-être tout de suite. Un peu comme un panneau de signalisation qui signale la direction d'une ville qu'on ne voit pas encore. Selon la Bible, le miracle est un signe, un panneau indicateur qui indique vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que les signes et prodiges sont souvent reliés à la prophétie dans la Bible. Parce que le sens des signes a besoin d'être accompagné d'une parole significative, hein, une parole qui va donner le sens de ce signe. Alors, vous voyez, j'aime bien cette image du panneau de signalisation et le Seigneur nous envoie sur la route pour être ses témoins. Hein. Mais avant de prendre la route, eh bien, il faut comprendre un peu le sens des panneaux, un peu comme quand on passe le code de la route. Hein. Alors, on va faire une petite séance à l'auto-école de Dieu ce matin. Une séance à la découverte du code biblique de la route. Histoire de découvrir un peu le sens, un peu des signes que le Seigneur nous laisse. Alors d'abord, comprendre le sens justement des signes. De quoi les miracles sont-ils le signe? Bien, ça dépend des miracles, hein, parce qu'il y a différents types de miracles dans la Bible. Mais lorsque vous regardez le livre des Actes, c'est assez étonnant de voir que les signes et prodiges qui sont principalement rapportés, ce sont surtout des guérisons miraculeuses dans le livre des Actes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on retrouve l'expression signe et prodige, mais vous savez pourquoi? Parce que ça désigne en premier lieu, quasiment, quoi, dans la grande majorité des cas, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Ce sont les signes et prodiges, hein, les 10 plaies d'Égypte. Parce que Dieu a accompli cela pour permettre à son peuple d'être libéré de l'esclavage de l'Égypte. Mais ces signes et prodiges sont surtout des signes du jugement, parce que ce sont des catastrophes, des épidémies que Dieu a envoyées, les 10 plaies d'Égypte, hein, ce n'est pas des guérisons. Et ce sont des signes et prodiges. C'est comme ça qu'on dit aussi la terme, et c'est ce que reprend le Nouveau Testament. Mais dans les Actes, les signes et prodiges sont principalement des guérisons. Pourquoi? Parce que ces signes et prodiges accompagnent non pas l'annonce du jugement de Dieu, mais l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile, celle du salut offert par Dieu en Jésus-Christ, celle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la guérison miraculeuse, c'est un signe de grâce. La guérison, c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous qui sommes pécheurs condamnés à mort à cause de notre péché, la guérison, c'est une grâce. C'est une grâce. Et la guérison miraculeuse est un signe de la grâce étonnante du salut par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous apporte ce salut. De nombreux récits des évangiles, des actes font ce lien. Et quasiment tout le temps, on fait ce lien entre, voilà, la guérison. Ça veut dire quelque chose du salut en Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit au malade, va, ta foi t'a sauvé, il souligne que cette guérison, vous voyez, ta foi t'a sauvé, pas ta foi t'a guéri, on dit, tiens, c'est un peu bizarre comme terme, pourquoi il n'a pas dit ta foi t'a guéri? Il souligne que cette guérison, elle pointe vers quelque chose de plus grand, vers le salut que Dieu veut offrir à tous ceux qui sont là et qui voient cette guérison. En déclarant au paralytique, lève-toi aux marches, dans les évangiles, vous vous rappelez de cet épisode, Jésus dit qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. C'est un signe de ce qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Et vous pouvez prendre tous les récits de guérison quasiment dans les évangiles, dans les actes, il y a toujours cette volonté de ceux qui racontent ces récits de dire, voilà, ça veut dire quelque chose de qui est Jésus, de son œuvre de salut, ça veut dire quelque chose de beau. C'est regardez à Jésus, c'est un panneau. Regardez à Jésus qui veut vous sauver d'une maladie bien plus grave que celle de physique. Et c'est pour cette raison que la guérison est le miracle qui accompagne le plus souvent la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile dans les Évangiles, dans les Actes. C'est un signe particulièrement pertinent du salut en Jésus-Christ. C'est pour ça aussi que, d'ailleurs, dans le cadre de l'évangélisation, c'est là souvent qu'on voit le plus de miracles. Dans l'histoire de l'Église, quand vous regardez un peu l'histoire, les périodes où il y a eu beaucoup de miracles, c'était souvent dans une nouvelle étape de la mission, dans des nouveaux terres de mission, lorsqu'on va d'une zone où l'Évangile n'a pas encore été prêché, parce que c'est un signe de la bonne nouvelle du salut. Et le fait est que notre pays, en France, est redevenu un peu une terre de mission, hein. ou bien de nos contemporains, ils n'ont même jamais entendu parler de Jésus. C'est qui ça, ce Jésus, hein? Même de l'Évangile. Nous vivons en même temps dans une société, c'est assez étonnant, nous on a vécu quelques années à Madagascar, mais quand on rentre ici, on s'en rend compte combien cette société est omnibulée par la santé. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Vous savez, on n'a jamais eu une médecine aussi performante qu'aujourd'hui, hein. Jamais l'humanité n'a vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui, en tout cas peut-être depuis l'époque d'Abraham. Jamais on n'a été aussi bien soigné. Il faut qu'on réalise ça, c'est un fait. Et pourtant, depuis quelques années, on trouve un engouement assez étonnant pour des médecines alternatives, les naturopathes, les magnétiseurs, les autres guérisseurs. Vous en avez à tous les coins de rue. Sur Internet, il y a une quantité de vidéos, d'articles qui nous disent comment bien manger, comment bien bouger, comment bien respirer, comment bien prendre soin de son corps. Vous savez, on a l'air d'être dans une société qui est en quête désespérée pour trouver une sorte de santé parfaite qu'elle n'arrive pas à trouver. Et dans ce contexte, où justement la santé est quelque chose de majeur, parce qu'on a le confort, on a tout aujourd'hui, mais la santé, on ne la maîtrise pas. Et je crois que le Seigneur peut utiliser la guérison miraculeuse pour attirer l'attention de ceux qui ont besoin d'une guérison bien plus profonde, bien plus importante que la maladie du corps, c'est la maladie du péché. Et la guérison miraculeuse, c'est un signe de cette guérison bien plus profonde, fondamentale, qui nous est offerte en Jésus-Christ. La guérison de la maladie du péché que nous obtenons par grâce en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle dont les guérisons miraculeuses sont le signe. Voilà le sens de ce signe en premier lieu, dans la parole de Dieu. Alors, une recommandation peut-être, puisque le miracle est un signe, ce qui est important, ce n'est pas le signe, mais ce qu'il signale. Le miracle est-elle un panneau indicateur qui indique, qui pointe vers une réalité plus grande? C'est un message en acte qui est indiqué à tous ceux qui observent le miracle, hein? Ce n'est pas juste pour la personne, c'est pour tous ceux qui sont là. Quand Jésus fait des miracles, ce n'est pas juste pour la personne, c'est pour que tous ceux qui observent comprennent qui est Jésus. Et c'est un message en acte qui est indiqué à tout cela. Alors prenons garde à ne pas trop nous focaliser sur le panneau. Sinon, si on regarde trop le panneau, on risque de tomber dans le panneau, hein. Le miracle, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas l'objectif de notre vie. Ça sert à illustrer le message de l'Évangile. Ça sert à appuyer le fait qu'il y a un Dieu qui se préoccupe de nous, un Dieu qui souhaite nous manifester un salut bien plus incroyable qu'une simple guérison. Et on vit à une époque où, vous savez, on veut vivre des choses extraordinaires, on souhaite expérimenter des sensations fortes, même des émissions où on cherche à, moi j'aime bien cette émission d'ailleurs, à regarder les incroyables talents. Et un des dangers, vous savez, lorsqu'il se produit des miracles, c'est de focaliser davantage sur le miracle que sur ce qu'il signale. Alors comment on peut éviter de tomber dans ce piège en tant que chrétien? Ben, il faut suivre l'exemple de Jésus, des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient pour les malades, ils chassaient les démons. Mais ils accompagnaient toujours cela de la prédication de l'Évangile. Si notre objectif prioritaire en tant que chrétien, ça devient seulement de guérir les malades, et non plus d'annoncer l'Évangile qui est la priorité, alors on n'est pas mieux que notre société omnibulée par une santé parfaite, on ne fait pas mieux que des magnétiseurs ou des guérisseurs, hein? Et le plus important, ce n'est pas le signe qu'est la guérison, mais ce vers quoi elle pointe. Une guérison bien plus importante, fondamentale. Et c'est pourquoi la guérison miraculeuse n'a pas de sens si on l'accompagne pas de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. Il faut aussi nous rappeler que si les miracles sont des signes extraordinaires, ce ne sont pas les seuls signes que Dieu nous a laissés. Et dans la Bible, il y a d'autres signes qu'on est invité à célébrer, ceux que le Créateur nous laisse dans la création. Vous savez, il y a plusieurs psaumes bibliques qui invitent à célébrer Dieu pour ses miracles extraordinaires. Et dans certains psaumes, c'est étonnant parce que les miracles qui sont mentionnés ici, pour lesquels on célèbre Dieu, c'est des choses qu'on voit un peu au quotidien et qui nous paraissent bien normales. Par exemple, le psaume 136 dit « Célébrez le Seigneur, car sa bienveillance durera toujours, célébrez-le pour des grands miracles. » Et si vous lisez la suite, quels sont les grands miracles qu'il convient de célébrer? Eh bien, en fait, la suite du psaume va mentionner la création des cieux, de la terre, du soleil, de la lune. La création, on pourrait dire naturelle, hein. Tout ça, ça devrait nous amener à nous émerveiller devant la grandeur et la bienveillance de celui qui a créé cette nature pour que nous puissions y vivre. Un autre psaume bien connu, le psaume 139, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature extraordinaire », littéralement on pourrait traduire « Je te loue de ce que je suis un vrai miracle ». L'être humain est la plus extraordinaire créature que Dieu ait créée. Et même ça devrait nous amener à célébrer l'Éternel. D'autres psaumes encore célèbrent Dieu parce qu'il est le Dieu des grands miracles qui fait tomber la pluie, qui permet à l'être humain d'avoir à manger. Et tout ça, c'est extraordinaire quand on y réfléchit bien. Vous savez, parfois, on a tendance à faire beaucoup de bruit lorsqu'on témoigne d'une guérison miraculeuse. Et c'est bien, on doit louer Dieu pour cela. Hein. Le Seigneur est grand. Mais si quelqu'un guérit de manière naturelle, entre guillemets, hein, ou suite à un traitement médical, ça nous paraît normal. Et vous savez, si la plupart des gens qui attrapent la grippe guérissent tout seuls, on n'a rien à faire, hein, les doliprane, c'est juste pour avoir un peu moins mal, hein, mais ce n'est pas ça qui nous soigne. Si on guérit tout seul de la grippe au bout de quelques jours, c'est parce que c'est Dieu qui a créé des anticorps qui permettent de lutter contre la grippe dans notre corps. Et si la médecine humaine permet aujourd'hui de soigner bien des maladies qui autrefois étaient incurables, je pense que sans la médecine moderne, il y a plusieurs d'entre nous, peut-être moi aussi, qui ne seraient plus là aujourd'hui. Mais si le Seigneur a permis cela, c'est parce que c'est lui qui a donné à l'être humain une intelligence pour comprendre les éléments de la nature que lui, il a créés et faire des combinaisons pour que ça fasse des médicaments. Mais on n'invente rien. C'est le Seigneur qui a tout créé, qui est à l'origine de tout cela. Vous voyez, toute guérison, il ne faut pas l'oublier, toute guérison devrait nous amener à glorifier le Dieu créateur qui manifeste sa bienveillance, sa grâce envers nous. Et moi, je loue le Seigneur pour les dizaines de fois où j'ai été guéri. Alors, pas forcément de manière miraculeuse suite à une prière, mais parfois, voilà, en prenant des médicaments, parfois sans rien faire, le Seigneur est toujours derrière ces guérisons. Un autre point sur lequel il me semble important d'insister, c'est que le miracle dans la Bible, il n'est pas centré sur soi. Les signes, ils pointent pas vers moi. Hein. Les signes, ils m'invitent à regarder dans une autre direction. Et vous savez, on est dans une société occidentale qui est très centrée sur soi, très centrée sur l'individu. Ce qui compte, c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement personnel, c'est ma santé, c'est ma prospérité. Et cette tendance, elle s'observe aussi dans certains enseignements sur les miracles. Comment est-ce que je peux obtenir mon miracle? Comment je peux activer le miraculeux dans ma vie? Comment je peux vivre une vie de miracle, moi? Et quand vous lisez les textes bibliques, ce n'est pas l'orientation qu'on trouve. Pensez au récit de la tentation de Jésus. Jésus, il a jeûné pas 3 jours, mais 40 jours. Et le texte nous dit qu'après, il a eu faim. Voilà, on comprend. Hein. Et le diable lui dit à ce moment-là, si tu es le fils de Dieu, tu as l'autorité, tu es puissant, tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Transforme les pierres en pain, Jésus aurait pu le faire. Fais un miracle pour toi-même. Et Jésus, il connaît la tactique du diable. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'important pour Jésus, ce n'est pas le miracle, d'autant plus pour satisfaire son propre besoin, mais c'est de dépendre de Dieu, de montrer sa dépendance de Dieu. Et ce que montre Jésus dans son attitude, c'est que je dois arrêter à vouloir à tout prix obtenir mon miracle, mais peut-être changer un peu ma perspective. Jésus n'a pas dit « cherchez premièrement à obtenir votre miracle », mais « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste ». Où sera donné en plus? Et premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Apprendre à dépendre de notre Père céleste, en lui faisant confiance, sans inquiétude. Par oui, il est le roi qui pourvoit, il est le Seigneur qui guérit. Et si nous voulons voir des miracles, alors peut-être que parfois, je crois dans l'Église, on a besoin, l'Église en général, on a besoin d'arrêter de regarder son nombril, et de regarder plutôt autour de nous, de voir ceux qui souffrent. comme Jésus avait cette attitude, ceux qui sont dans la détresse, avoir compassion d'eux. Et c'est cette compassion qui doit nous amener à vouloir prier pour les perdus, prier pour ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prier pour les malades, prier qui sont ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, c'est une différence dans l'attitude. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Il ne fait pas de miracle pour ses propres besoins, surtout pour manger, il n'avait pas besoin à ce moment-là, mais il prie pour les malades quand il voit la compassion, quand il voit qu'ils souffrent, quand il voit ceux qui en ont besoin. Manifestons autour de nous la grâce, le salut de Jésus-Christ. Avoir une attitude en regardant autour. Ça, c'est la manière dont la Bible nous encourage à expérimenter le miraculeux. Autre point important, attention aux panneaux d'indication trompeurs, aux signes trompeurs. Parce que là aussi, on doit faire preuve de discernement. Comme pour la prophétie, on en a parlé. Vous savez, tous les prétendus miracles, signes et prodiges ne pointent pas forcément dans la bonne direction, hein. Le diable peut aussi utiliser le miracle, des choses extraordinaires, pour conduire dans une mauvaise direction. C'est ce que nous dit la Bible. De préférence vers l'idolâtrie, hein, vers un autre Dieu. Et en Matthieu 7, Jésus nous dit que même parfois, certains qui auront dit « Seigneur, n'avons-nous pas fait de nombreux miracles en ton nom ?» Au nom de Jésus, il dit « Voilà, ceux-là ne seront pas forcément mes représentants. Je ne les connais pas, dit Jésus. » Car oui, il y a des miracles qui existent en dehors de la foi chrétienne, vous savez, hein, il y a des musulmans, des hindous qui témoignent de miracles. Vous avez des sorciers, des marabouts, des magnétiseurs, des guérisseurs qui sont capables de faire des choses étonnantes. Mais ce sont là des signes trompeurs. Des panneaux qui nous emmènent droit dans le précipice, droit dans le panneau peut-être. Alors comment est-ce qu'on peut discerner entre un vrai miracle et un signe trompeur, on pourrait dire, ou un miracle mirage peut-être. Ben, tout simplement, là aussi, en écoutant le message qui accompagne le miracle. Est-ce que le signe est présenté comme quelque chose qui pointe vers le Dieu vivant, vers Jésus-Christ? Est-ce qu'il pointe vers le salut en Jésus-Christ, vers la bonne nouvelle de l'Évangile? Ou est-ce qu'il est là pour pointer vers autre chose? Peut-être la puissance du prédicateur, du prophète ou du super bishop, hein, ou vers toute autre forme d'idolâtrie. Parfois, il y a des formes d'idolâtrie qui sont plus sournoises. Vers quelle direction est-ce que le signe est orienté? Et si le signe indique une autre direction que Jésus, que le Dieu vivant, que son salut, alors c'est un très mauvais signe. C'est un signe qui nous emmène dans une mauvaise direction et il est temps de faire demi-tour. Un autre élément qui convient de... Dernière précaution, on pourrait dire, sur ce point, c'est pas confondre, il ne faut pas confondre le signe avec un panneau d'arrivée. Tant que le Christ n'est pas revenu, que le royaume de Dieu n'a pas été pleinement établi, la Bible dit qu'on est dans une période un peu intermédiaire, qu'on appelle le déjà et le... On parle du déjà et du pas encore. Il y a déjà des choses qu'on a en Christ et certaines qu'on attend pour la résurrection finale, pour le dernier jour. Et la guérison miraculeuse, c'est un signe de la santé parfaite dans un corps parfait où il n'y aura plus jamais de douleur, de mal de dos ou quoi que ce soit, et éternel. Mais ce corps parfait, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est lorsqu'on sera ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous promet la parole au dernier jour. Les morts ressusciteront. On l'a rappelé encore ce matin, comme Jésus a dit, voilà, il est le Dieu des vivants. Dieu de la vie et la résurrection est notre espérance. Et ce corps-là ne souffrira plus. Il n'y aura plus de douleur, plus de vieillissement. Et ce qui explique que jusqu'à présent, hein, on n'est pas encore dans ce corps, puisque jusqu'à présent, selon mes informations, en tout cas, il n'y a aucun chrétien depuis 2000 ans qui a survécu plus de peut-être 130 ans. Allez, je ne sais pas, peut-être, en tout cas, c'est rare même. Tous les chrétiens depuis 2000 ans qui nous ont précédés, sont décédés. Et ce qui veut dire qu'ils ont eu au moins un problème de santé qui a provoqué leur mort. Il ne faut pas confondre les temps. Les miracles ne sont pas la normalité dans le monde présent, sinon ce ne serait plus des miracles, hein. Ça serait des choses normales, on va dire. Ce sont un signe de ce qui sera la normalité dans le monde à venir. Il ne faut pas confondre le signe avec le panneau d'arrivée. Alors une fois qu'on a compris tout cela, On croit quand même que le Seigneur veut faire des miracles, hein, qu'il veut guérir, qu'il veut manifester ses signes, parce que voilà, il veut parler à travers cela, il veut nous encourager, il veut manifester sa bonté, sa bienveillance envers nous. Alors comment est-ce qu'on va procéder concrètement? Comment prier pour les malades? Est-ce qu'il y a des formules particulières, des gestes particuliers à faire pour que les malades soient guéris? Tout à l'heure, on priera pour les malades en suivant une recommandation qu'on trouve dans l'épître de Jacques, voilà, avec l'onction d'huile. Je commenterai cela, mais j'aimerais rappeler d'abord que lorsque vous lisez les récits des évangiles et des actes, ce qui est surtout frappant, c'est qu'il n'y a rien de systématique. Il n'y a aucun geste ou aucune formule que vous retrouvez tout le temps dans les prières pour les malades. Parfois, on mentionne l'imposition des mains. Parfois, il y a simplement une parole. Parfois, Jésus, il fait des gestes un peu étonnants. Il crache même des fois avec sa salive ou fait de la boue. Mais c'est une fois à chaque fois. Il ne fait pas ça pour tout le temps, hein. Dans le livre des Actes, c'est intéressant. Si vous prenez par exemple les trois récits où Dieu a utilisé Pierre pour guérir un malade ou même ressusciter un mort. Aux trois récits de guérison opérés par Pierre, il y en a trois qui sont rapportés dans le livre des Actes. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous regardez les paroles et les gestes de Pierre, à chaque fois, c'est différent. En acte 3, Pierre, il dit au boiteux, vous savez, qui est assis à l'entrée du temple, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, au nom de Jésus le Nazoréen, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ensuite, il va le prendre par la main, l'aider à se lever, et le boiteux va être guéri miraculeusement. En acte 9, Pierre, il va voir Énée, qui est paralysé. Qu'est-ce qu'il dit à Énée? Il dit, Énée, Jésus te guérit. Oui, c'est déjà différent. Mais voilà, Jésus te guérit. Et là, il ne l'aide pas pour faire se lever, mais il lui dit, fais ton lit. C'est ce que dit le texte, hein. Jésus te guérit, fais ton lit. Et dans ce même chapitre, quelques versets plus loin, Pierre va voir Tabitha qui vient de décéder. Et face à Tabitha qui vient de décéder, il s'agenouille et il dit, Tabitha, lève-toi. Et celle-ci ouvre les yeux, s'assoit, puis Pierre va aider à se lever. Vous voyez, à chaque fois, la parole de Pierre, elle est différente. Au nom de Jésus, ou Jésus te guérit, ou même simplement Tabitha, lève-toi. On peut penser qu'il était agenouillé, qu'il a prié avant. Mais à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, les gestes sont différents. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de formule magique, hein. Il n'y a pas de geste magique. On n'est pas des guérisseurs, hein, qui répètent des formules, qui doivent faire des gestes particuliers. Mais on est des témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui prie pour les malades en son nom. Et en même temps, on voit que Pierre fait les choses assez simples, hein. C'est étonnant, ouais. Il n'y a pas de mise en scène particulière, de show, je ne sais pas quoi, de tralala, hein. Non, au nom de Jésus, sois guéri. Jésus te guérit. Je crois que ce qui importe, vous voyez, c'est simplement de prier avec foi et d'indiquer clairement que c'est Jésus qui guérit. Parce qu'on n'est que ses témoins, on n'est que ses représentants. L'autorité que nous avons sur la maladie, ce n'est pas la nôtre. Elle ne vient pas de nous, c'est l'autorité du Christ qu'il nous donne par son Saint-Esprit. Et tout à l'heure, on aura un temps, donc, comme je l'ai dit, où on va prier pour les malades, après la Sainte Cène, parce qu'on veut se centrer sur Christ d'abord. Et on va suivre les recommandations de Jacques 5, verset 14, qui dit ceci, on peut afficher le texte, Jacques 5, 14. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, les anciens, certaines traductions, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Le texte continue. Je relirai peut-être tout à l'heure. Là, on a un modèle aussi qui nous est donné. Les anciens, les responsables sont appelés à prier. Non pas parce qu'ils auraient un pouvoir spécifique, hein, ou magique, ou on serait plus puissant ou plus fort que vous, hein. C'est le même Saint-Esprit qui est donné à tous les membres du peuple de Dieu, hein. C'est ce qui est rappelé, vos fils et vos filles, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, on a le même Saint-Esprit. Mais si ce sont les responsables de l'Église qui prient, c'est tout simplement parce que vous nous avez choisis pour vous représenter, pour vous conduire. Et on croit que le Seigneur, voilà, nous utilise aussi pour ça. Et c'est au nom de l'Église, c'est pour, voilà, au nom de l'Église que nous prions. Hein. Lorsque les responsables prient, c'est en fait toute l'Église qui prie à travers eux. C'est une manière de dire, voilà, Seigneur, en tant qu'Église, nous te prions pour ces personnes. Nous te demandons leur guérison. Nous sommes tous impliqués. Et puis, on va faire l'onction d'huile. Moi, j'aime bien faire une petite marque de croix aussi sur le front des malades avec l'huile, parce que ça nous rappelle aussi la croix. Mais là aussi, il n'y a rien de magique. Hein. Ce n'est pas une huile spéciale qui aurait des pouvoirs magiques. Quand on fait l'onction d'huile, c'est simplement une manière symbolique de demander à Dieu une bénédiction, une consécration de cette personne à Dieu. C'est aussi un symbole, l'huile, parfois dans la Bible, qui peut être associée au Saint-Esprit. Quand on oint d'huile, on dit Seigneur, ce n'est pas moi qui guéris, c'est ton Saint-Esprit. Mais non. C'est un geste symbolique, vous voyez, qui a du sens. La parole de Dieu nous invite à le faire. Mais ça ne veut pas dire que l'onction d'huile serait la seule façon de prier pour les malades, puisqu'on a vu que dans plein de textes des évangiles et des actes, il n'y a pas d'onction d'huile et pourtant les malades sont guéris. Hein. Mais voilà, comprenons ce que nous faisons et rappelons-nous que l'important c'est surtout de prier avec foi, simplement en rappelant que c'est Jésus qui guérit. Amen. Voilà quelques éléments du code de la route divine. Quelques éléments qui vont nous permettre, j'espère, de comprendre un peu mieux les signes qu'il produit et comment avancer là-dessus. Et une fois qu'on a compris ce code, ben, il faut aussi prendre la route. Hein. Il faut s'y mettre, parce que c'est bien beau d'apprendre à passer le code ou le permis de conduire, mais si on ne conduit pas, c'est dommage. Hein. Et le Seigneur nous envoie comme messager de son royaume. Il nous dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, proclamez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et non seulement il nous envoie, mais le livre des Actes nous montre qu'il ne nous laisse pas seuls, qui nous donne le meilleur guide qui soit, c'est lui-même le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous. Alors, on peut se rassurer, on est en conduite accompagnée. Hein. Alors, soyons à son écoute, laissons-le nous utiliser avec sa sagesse, avec son discernement, pour poser un peu quelques panneaux indicateurs, hein. Afin d'orienter les perdus vers son royaume. Alors aujourd'hui, demain, lorsque vous allez sortir d'ici, lorsque vous allez repartir au travail, demain, lorsque vous allez repartir aux études, ou dans vos familles, ou autour de vous, soyez attentifs à ceux qui semblent un peu perdus sur la route, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en errance, et proposez-leur de prier pour eux. Ils veulent pas, c'est pas... Voilà, vous n'allez pas les forcer, hein, mais... Proposez-leur de prier pour eux. Et puis n'oubliez pas de leur indiquer le seul chemin, qui est Jésus-Christ. Amen. On va prier, on va se lever si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous envoies comme tes témoins pour proclamer une bonne nouvelle. Et Seigneur, nous sommes faibles et nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous ne sommes pas plus puissants ou plus sages ou quoi que ce soit, mais nous savons que tu veux nous envoyer quand même, Seigneur. Et nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin de ton esprit, notre besoin de ton Saint-Esprit pour nous accompagner, Seigneur, dans cette mission de tous les jours, là où tu nous places, Seigneur, sur notre lieu de travail, sur notre lieu d'études, auprès de nos proches, nos familles, notre voisinage, Seigneur, tu veux faire de nous tes témoins. Et Seigneur, nous te prions pour que tu nous utilises pour être des bons témoins de ta parole et de ton évangile. Donne-nous aussi l'audace de pouvoir prier ou demander à ceux qui souffrent s'ils veulent qu'on prie pour eux. Et Seigneur, nous voulons croire en ta parole qui nous dit que tu vas guérir et que tu vas faire des signes et prodiges et que ce sera là des choses qui vont pouvoir pointer vers qui tu es, vers ton salut, vers ta résurrection, vers le Dieu de bonté et de miséricorde que tu es. Oh Seigneur, viens encore nous équiper en tant qu'Église, en tant que communauté, pour être une communauté qui manifeste tes signes et prodiges et qui amène ceux vers qui ils pointent, vers toi Jésus-Christ, à travers cela. Nous voulons vivre cela en tant que communauté, Seigneur, non pas juste pour se faire du bien entre nous, mais pour que, Seigneur, toucher notre environnement, pour que ce soit un témoignage, Seigneur, qui interpelle, Seigneur, ceux qui nous entourent et qui disent « Ah, Il y a un Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être un Dieu vivant là. Seigneur, c'est notre désir, c'est notre souhait. Alors viens encore te manifester au milieu de nous, qu'il se produise des signes et des prodiges comme tes disciples ont demandé. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance et qu'il se produise des guérisons, des signes et prodiges pour ta gloire. En ton nom, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Alléluia, amen, Seigneur. Tu es le même aujourd'hui, depuis l'éternité et pour l'éternité. Amen. Alléluia, Seigneur. Maintenant, on va se mettre à table avec le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur, il nous a appris à faire en mémoire de lui le partage du pain et du vin. Amen. J'invite les sœurs responsables pour la distribution du pain et du vin. Alléluia, Seigneur. On va lire un passage. Du coup, c'est Luc 22, 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Verset suivant. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Amen. Amen. Le Seigneur aussi, il veut partager cette table avec nous aujourd'hui. Amen. Parce qu'il ne change pas. Il est le même. Il est notre berger éternel. Amen. Amen. Il nous appelle à sa table parce qu'il veut faire une alliance, amen, avec nous. Renouveler son alliance. Amen. Venez à moi, dit le Seigneur aussi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur continue dans le passage, car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Après. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Amen. On peut distribuer le pain et vin. On peut se lever, on va partager. Et on dit dans le cœur, Seigneur, je veux partager avec toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu nous as appelés aujourd'hui, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Pour nous guérir, Seigneur, pour nous donner du repos, Seigneur. Verset suivant. Verset suivant, s'il vous plaît. Ensuite, le Seigneur, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Le pain qu'on va partager, c'est en mémoire du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dit. Amen. C'est son corps. Amen. Son corps qui a porté nos maladies. La parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ou plutôt, nous avons été guéris. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Verset suivant. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen.
Amen.
Alléluia. Le Seigneur, il a fait une alliance. Parce que le Seigneur, il savait que sans lui, nous serions perdus. Parce que le Seigneur, il savait que l'ennemi, il voulait nous détruire. Parce que l'ennemi, il est venu pour détruire, pour voler, pour donner la mort. Hein? Mais le Seigneur, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et pour s'assurer, il a fait une alliance avec son propre sang. Alléluia, Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia Seigneur. Si tout le monde a le pain, en mémoire de notre Seigneur, amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice Père éternel que tu as à payer Seigneur. Tu as supporté tout Seigneur parce que tu as vu Seigneur nos vies Seigneur en victoire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te demandons de nous purifier, Seigneur, pour participer, Seigneur, en pureté, Seigneur, à ta table, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à pardonner, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons ton reflet, Seigneur. Que nous aimions, que nous arrivions à pardonner comme toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton corps que tu as donné. Et nous faisons ça en mémoire de toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons partager le pain. Merci, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'alliance que tu as faite, Seigneur. Tout est parti, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a vus, Seigneur. Et tu savais comme nous étions, Seigneur, et que nous allions jamais peut-être arriver à tenir, Seigneur, une alliance ou un pacte. Mais c'est pour ça que tu as tout fait, Seigneur, parce que nous sommes faibles, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton alliance, Seigneur. Et en mémoire de toi, Seigneur, et nous partageons ce vin, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Que ton royaume vienne, Seigneur, et que tu puisses partager à nouveau, Seigneur, comme tu le dis, Seigneur, ce vin avec nous, Seigneur, donne ton royaume, Père éternel. Alléluia, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Si vous voulez lever vos prières de remerciement, vous pouvez le faire maintenant. Merci, Père éternel. Seigneur, maintenant nous aurons un temps pour laisser le Seigneur aussi participer à notre réunion. Amen.
Amen. Amen. Le Seigneur, il est là depuis le début. Hein. Il nous précède même. Le Seigneur nous dit dans sa parole, l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie? Qui chante des cantiques? On l'a fait. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné.
Amen.
Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Et vous voyez, le temps de prière pour les malades, c'est aussi un temps que ce texte relie à la confession des péchés. Non pas parce que notre maladie serait forcément liée à un péché particulier, hein, il ne faut pas forcément... Alors ça peut être le cas, hein, qu'on a une mauvaise façon de prendre soin de son corps, hein. Il nous arrive aussi des maladies, hein, si on a des addictions ou si on a des comportements à risque. Mais de manière générale, la parole de Dieu nous invite à dire, ne pas accuser les malades de quelques péchés, mais la maladie nous rappelle tout de même que nous sommes encore atteint par les conséquences générales du péché. Vous savez que la maladie, c'est une conséquence générale du péché. Dieu nous a, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de maladie. C'est lorsque le péché est entré dans le monde que la maladie est aussi entrée. Et ça nous rappelle qu'on est des êtres encore faibles, qui ont besoin de l'aide du Seigneur, que ce soit au niveau spirituel, au niveau du péché ou dans nos corps. Et, donc c'est un temps aussi où on peut confesser nos péchés au Seigneur, peut-être prendre un temps chacun avant qu'on prie pour les malades, où on peut tous s'interroger et se poser devant Dieu. Hier, on a eu un beau temps comme ça, on a amené nos péchés devant le Seigneur à la croix, et ce matin, je les ai jetés à la poubelle, j'avais oublié de les enlever hier. Et le Seigneur, parce qu'on a mis ça sur des petits papiers, et le Seigneur, il nous prend nos péchés, il nous pardonne son sang, on l'a rappelé, et lequel par nous sommes pardonnés. Prenons juste un temps dans le silence pour nous examiner les uns et les autres. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et pas dignes de nous présenter devant toi, mais Seigneur, nous savons aussi que par le sang versé à la croix, tu nous pardonnes. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Et Seigneur, tu vas nous relever, tu vas nous donner cette assurance du pardon, tu vas guérir les blessures du passé aussi qui sont liées peut-être à notre péché. Tu vas restaurer, Seigneur. Nous te demandons cela au nom de Jésus, avec confiance dans l'œuvre que tu as déjà accomplie pour nous à la croix, comme nous venons de le rappeler par ce repas. Amen. Puis je vais inviter maintenant simplement Boris et Sidelina à me rejoindre. On est les membres du conseil qui sont là. Il y en a d'autres qui ne sont pas là ce matin, qui sont partis ce week-end. Mais voilà, on est tous les trois là. Et selon cette invitation de l'épître de Jacques, j'ai ramené un peu d'huile aussi. On va faire un peu l'onction d'huile. Simplement, on va faire quelque chose de très simple. On ne va pas faire de longues prières, mais juste demander avec foi, Seigneur, guéris par ton nom, au nom de Jésus. Tu es guéri, comme a dit Pierre. Amen. Alors, vous pouvez venir simplement et puis on va faire cela. Peut-être l'Église, rappelez-vous que ce n'est pas juste nous qui prions, nous prions en tant que représentants. Alors, priez avec nous. Priez avec nous et Seigneur, vous pouvez, si vous voulez, aussi tendre vos mains vers ceux qui viennent et on va prier pour eux. Seigneur Jésus, nous te prions pour Laurence et te demandons la guérison par ton nom puissant.
Sœur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, nous prions pour notre sœur et te demandons maintenant la guérison en ton nom, au nom de Jésus, par le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver et nous guérir de nos maladies. Amen.
Amen. Alléluia.
Seigneur, parce que tu guéris aussi les corps brisés. Merci. Amen.
Amen.
Au nom de Jésus, ma sœur, sois guérie. Que Le Seigneur t'apporte cette guérison. Avec foi, nous prions. Amen.
Amen. Amen.
Seigneur, ce signe de croix nous rappelle que tu as porté nos maladies à la croix. Et cette huile que par ton Saint-Esprit, tu procures la guérison. En ton nom, Jésus, nous te demandons la guérison pour notre sœur Anne-Marie. Amen.
Amen.
Seigneur, tu connais Laurence dans le moindre détail de sa vie, de son cœur, des cellules de son corps. Tu sais la guérison dont elle a besoin et nous la proclamons en ton nom. Tu es celui qui guérit. Amen.
Amen.
Seigneur, nous te prions pour notre frère. Tu connais ses besoins et nous prions en particulier pour ses yeux, que tu veuilles rétablir ses yeux pour qu'il puisse voir, qu'il puisse lire ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ, en ayant confiance que tu es le Dieu qui fait des miracles. Amen.
Amen. Merci Seigneur.
Seigneur, tu connais notre sœur Débby, tu sais par quoi elle passe et nous savons aussi, Seigneur, qu'elle lutte avec la maladie. Et nous te prions vraiment de poser ta main bénissante et guérissante sur elle maintenant. Nous prions au nom de Jésus, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui libère. Amen.
Merci Christ.
Merci Seigneur, parce qu'elle ne regarde pas aux circonstances de la vie. Elle regarde à toi, Seigneur. Et Seigneur, quand on la voit, elle est toujours dans la paix et dans la joie. Merci Seigneur pour ton œuvre dans la vie du débit. Amen.
Amen.
Seigneur, nous te prions pour notre sœur Anna, que par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ, tu viennes la rétablir, la restaurer, la guérir maintenant. Nous prions, Seigneur, avec foi, parce que tu es tout puissant. Amen.
Alléluia, Seigneur. Pour ta gloire, Père éternel, établis, Seigneur, ton royaume et ta volonté sur sa vie, sur sa famille, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.
Amen.
Oui, merci de bénir aussi ces enfants, Seigneur, et qu'elles soient bien entourées par l'amour de ces enfants. Seigneur, l'amour de Dieu, c'est le plus important, mais elle a aussi besoin d'être entourée d'amour de ses enfants. Amen.
Seigneur, comme les paralytiques ont... Quand il y avait ce paralytique, leurs amis l'ont apporté vers toi, Seigneur, ont porté et ont demandé à Jésus la guérison. Seigneur, cette sœur nous présente sa petite fille et nous te demandons vraiment que tu vois sa foi et que tu l'honores et que tu bénisses sa petite fille maintenant là où elle est, Seigneur. Et nous te demandons cette guérison par le nom puissant de Jésus qui soit un témoignage de ton amour, de ton salut, de ton pardon, Seigneur. Amen.
Alléluia, Père éternel, comme le centurion, Seigneur, qui t'a dit, je connais des ordres, Seigneur, je connais l'autorité, Seigneur. Une seule parole de ta bouche, Père éternel, pour la guérir, Seigneur. Et nous sommes ensemble, Seigneur, en ton nom, comme ton corps, Père éternel, nous déclarons, Seigneur, sa nièce, Seigneur, guérie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur.
Amen.
Amen.
Dans mon corps. Oh Seigneur, tu es celui qui connaît notre sœur dans les moindres détails de son corps. Et Seigneur, nous te prions maintenant que tu viennes enlever ses douleurs, enlever ses douleurs maintenant au nom puissant de Jésus, le Dieu qui guérit. En Jésus-Christ, nous te prions maintenant. Alléluia. Amen.
Et merci Seigneur pour notre sœur, Seigneur, qui a cette maladie depuis longtemps, Seigneur, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et ce matin, nous te la confions, Seigneur, nous la bénissons et nous proclamons une guérison de la tête aux pieds dans le nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, guéris aussi ses émotions et son cœur, Seigneur, que toute blessure du passé soit guérie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen, merci Seigneur. Tu prends soin, Seigneur, de tes brebis, Seigneur, et de ta fille, Père éternel. Qu'elle puisse se reposer, Seigneur, entre tes bras, Seigneur, et trouver, Seigneur, ta paix, ton amour, Seigneur, et le salut que tu as payé pour elle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait, amen. Alléluia.
Passe pas très bien, quoi. Beaucoup de problèmes autour de mes yeux.
Seigneur, nous prions par le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui rend la vue aux aveugles et tu peux rendre la vue, guérir cette greffe, Seigneur, faire que cette greffe prenne et lui rendre la vue totalement à notre sœur, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant et nous te le demandons avec confiance, avec foi. Fais-le maintenant.
Amen.
Parfois, la guérison ne se passe pas tout de suite, mais attends-la au nom de Jésus. Amen.
Amen. On résiste l'ennemi, et l'ennemi, il fuit. Amen. Amen. La maladie, elle fuit. On doit résister.
Amen. Le Seigneur est avec toi, tu n'as rien à craindre.
C'est pour l'insensibilité des orteils.
Seigneur, nous te prions pour Sébastien, tu vois cette question de pied, Seigneur. Et nous te prions pour la restauration maintenant de ses pieds, la restauration de la sensibilité de ses pieds. Nous le faisons avec confiance, avec foi, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui va le guérir par le nom puissant de Jésus-Christ. Te le demandons maintenant. Amen.
Seigneur, merci pour Jean, merci de ce qu'il est dans le corps de Christ. Seigneur, merci parce que tu mets dans mon cœur que c'est un homme de valeur. Oui, merci Seigneur, amen.
Amen, merci Seigneur pour son service aussi, Seigneur, à l'Église, Père éternel. Tu récompenses, Seigneur, ceux qui t'offrent, Seigneur, leur temps, Père éternel. Et tu les bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen.
Amen. Au nom de Jésus, je remets tout entre mes mains. Amen.
Seigneur Jésus, nous te prions pour Sheila. Nous te prions pour que les douleurs s'en aillent maintenant au nom puissant de Jésus, que tu restaures, Seigneur. Nous prions tous ensemble en tant qu'Église. Je ne suis pas tout seul à prier, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons vraiment d'intervenir dans sa vie maintenant, de toucher son corps, son cœur, sa santé, sa personne entière, par ta présence et ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen.
Moi, je te remets Sheila entre tes mains, ainsi que toute sa famille, Seigneur. Que tu leur donnes faim et soif de s'approcher de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Et nous proclamons cette guérison au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu établis aussi ta volonté sur sa vie, Père éternel. Ta volonté qu'elle soit pleine de vie, Seigneur, comme tu as payé, Seigneur. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance, Seigneur, pour elle et sa fille, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père éternel, pour Sheila. Amen.
Freddy, je suis diabétique.
Seigneur, nous te prions pour Freddy et tu vois cette maladie de long cours qui est compliquée, qui perturbe la vie, Seigneur, et nous te prions vraiment que tu viennes rétablir cette gestion du sucre dans le sang, Seigneur, que tu viennes enlever ce diabète. Nous prions avec confiance, tu connais son corps, sa santé mieux que nous, et nous le prions au nom de Jésus maintenant. Amen.
Amen.
Nous te demandons de purifier son sang. Oh oui, Seigneur, purifie son sang, Seigneur. Que tout ce qui ne marche pas dans ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, puisse marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole, lève-toi et marche, Seigneur. Et Seigneur, moi j'ai dit à mon frère, dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Amen.
Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Amen.
Oh, Seigneur, nous te prions pour notre sœur. Tu vois sa santé, son corps. Tu connais ses fragilités au niveau de son corps. Et nous te prions maintenant de restaurer son corps, sa santé. Nous prions simplement, Seigneur, avec foi, par le nom puissant de Jésus. Nous savons que tu entends nos prières et que tu y réponds selon ta parole, ta volonté. Alléluia. Amen.
Amen.
Oui, merci Seigneur. Le corps a besoin de guérison, mais l'âme aussi a besoin de guérison. Les corps brisés ont besoin de guérison. Et Seigneur, moi je te confie, ma sœur, que tu la guérisses. Tu guérisses son âme, son cœur. Seigneur, merci pour la guérison, merci pour le changement dans sa vie. Seigneur, je proclame cette guérison de la tête aux pieds, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, relève-la, elle a besoin de toi. Amen.
Amen.
C'est dur, c'est pour ça que j'ai demandé la prière.
Seigneur Jésus, nous te prions pour Yamina. Tous ensemble, en tant qu'Église, Seigneur, nous te la remettons. Elle t'a déjà demandé la guérison, mais nous voulons le faire avec elle, Seigneur, en s'unissant à sa prière, en tant qu'Église, comme tu nous le demandes, Seigneur. Nous te demandons maintenant sa guérison, que ses douleurs s'en aillent, que ses douleurs disparaissent par le nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant. Amen.
Amen. Amen.
Seigneur, nous voulons déjà te remercier pour sa guérison. Physiquement, intérieurement, qu'elle soit complètement guérie. Que son cœur brisé soit guéri dans le nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, elle trouve une différence dans sa vie. Merci, Seigneur, de l'avenir. La remplir à déborder de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Merci de ce qu'elle est, Seigneur, une nouvelle créature en Christ. Le passé ne l'appartient plus. C'est fini, Seigneur. Souffle. Souffle. Le corps et ma soeur, que toute souffrance puisse la quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute oppression de quitter sa vie, son corps.
Alléluia, tu rafraîchis, Seigneur, son corps, au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Merci, Seigneur.
poursuivre la prière des enfants, elle est précieuse. Seigneur Jésus, nous te prions pour Dan, hein, c'est ça. Dan, vraiment que tu viennes placer ta main guérissante sur lui maintenant. Tu vois cette douleur au bras, ce tennis elbow, Seigneur, et nous demandons vraiment que cette douleur s'en aille maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu honores la prière de ton Église, la prière des enfants aussi, Seigneur. Ça réjouit ton cœur et je crois, Seigneur, que tu vas faire de belles choses dans la vie de Dan, Seigneur, et que tu vas manifester ta gloire à travers cette guérison. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble. Amen.
Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu pour les médecins, mais Seigneur, nous crions au grand médecin, au Dieu puissant, qui a le pouvoir de guérir toute maladie. Et Seigneur, nous proclamons la guérison au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Sois guéri, mon frère.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te prions pour Josué, pour ce problème à l'œil. Nous te le remettons maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu qui rend la vue aux aveugles et tu peux rendre... enlever des problèmes de vue, Seigneur, bien plus faibles qu'un aveuglement. Et Seigneur, nous croyons que tu vas le faire maintenant. Par ton nom puissant, tu rends la vue et tu renouvelles, tu restaures l'œil de Josué. Nous prions au nom de Jésus, en confiance que tu agis et que tu vas guérir. Amen.
Alléluia, Père éternel. Tu as donné la vue à beaucoup de gens, Seigneur. Parce que tu es Tout-Puissant, Seigneur, notre Créateur, Seigneur, et tu ne changes pas, Père éternel. Et nous te remercions, Seigneur, que tu touches aussi notre frère Josué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci beaucoup, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Oui, Seigneur, merci pour Josué, merci pour ce qu'il est, Seigneur. Pour ce qu'il est dans cette église, une bénédiction, Seigneur. Et Seigneur, je proclame une bonne santé pour notre frère, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bon, on peut aussi prier pour aussi les membres du conseil qui sont malades.
Vous savez, pendant mes vacances, j'ai tombé au Portugal. Et voilà, j'ai eu quelques problèmes. Mais ça va mieux, grâce à Dieu.
Amen.
On peut tous prier hein, pour elle, au nom de l'Église. Seigneur Jésus, on te prie pour Sidalina, elle prie pour les autres, mais on prie aussi pour elle, Seigneur, que tu viennes restaurer sa santé maintenant, au nom de Jésus. Tu masses ta main guérissante sur elle, que les douleurs s'en aillent, que ces douleurs qui restent encore disparaissent, Seigneur, maintenant, par le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Alléluia. Nous prions avec confiance. Amen.
Alléluia, Seigneur. Tu as pris nos maladies, Seigneur. Nos maladies ne sont plus à nous, mais à toi, Seigneur. Parce que tu les as pris toutes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci beaucoup. Tu libères, Seigneur, ta fille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci, Seigneur. Gloire à ton nom.
Amen.
Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de guérison dans notre église. On va encore prier pour notre sœur Amparo. Seigneur Jésus, je te prie pour Amparo. Tu connais son corps, sa santé. Et nous te demandons maintenant de placer ta main guérissante sur elle. Que tu viennes la guérir au nom de Jésus-Christ maintenant. Nous prions tous ensemble en église, avec foi, comme tu nous le demandes dans ta parole. De façon simple, parce que tu es un Dieu qui fait les choses simplement. Et nous voulons te demander de le faire dans sa vie maintenant. Amen.
Amen.
Seigneur, moi, je te demande vraiment de la renouveler, de renouveler ses forces, Seigneur. Seigneur, c'est une femme de prière, Seigneur. Mais Seigneur, elle a besoin d'être renouvelée dans son corps. Seigneur, merci que toute fatigue puisse la quitter maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'elle soit fortifiée au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, dans notre Église qui ont besoin de guérison. Et on veut croire que le Seigneur va les guérir, qu'il a commencé à les guérir. Et parfois, la guérison vient le jour même, parfois, ça prend plus de temps. Mais de toutes ces guérisons, c'est le Seigneur qui fait.
Amen.
De quelque manière qu'il soit, il le fait, c'est lui. Alors, n'hésitez pas à témoigner hein, aussi lorsque... Si vous avez vécu quelque chose ce matin ou s'il y a quelque chose qui se produit dans ces prochains jours, dans votre corps, s'il y a un changement, alors n'hésitez pas à venir trouver, en parler aux autres, à venir nous trouver, parce que c'est aussi par le témoignage qu'on témoigne de ces miracles comme des signes qui pointent vers quelque chose d'encore plus grand que le Seigneur fait dans nos vies par sa mort à la croix. Amen.
Alléluia, Seigneur. On va lire un verset, Malachie 1, verset 11. Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel, tu es bon, Seigneur. D'éternité en éternité, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Du lieu où le soleil s'élève jusqu'au lieu où il se couche, des gens de tout pays reconnaissent ma grandeur. Partout, on brûle du parfum en mon honneur et l'on m'apporte des offrandes dignes de moi. Oui, les autres peuples reconnaissent ma grandeur. Je le déclare. Moi, le Seigneur de l'univers. Alléluia, Seigneur. Nous aussi, nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, Père éternel. Et nous te demandons, Seigneur, d'accepter aussi, Seigneur, nos offrandes, Seigneur. Comme dit, Seigneur, Paul dans le Nouveau Testament, Seigneur, que chacun donne de sa volonté, de son cœur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et on donne avec de la joie. On va chanter.
Nous venons célébrer Dieu.
Seigneur, comme on a lu, Seigneur, dans ta parole, que toutes les nations, tous les peuples, Seigneur, honore ton nom, Seigneur.
Amen.
Merci, Père éternel. Tu nous bénis, Seigneur, et nous pouvons bénir aussi, Seigneur. Accepte, Seigneur, nos offrandes, Seigneur. Et aussi, Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, Père éternel. Mais tu, notre Père, tu ne veux pas qu'on ne mange pas, Seigneur. Du coup, Seigneur, donne-nous de bons emplois, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la provision, Père éternel. Donne-nous, Seigneur, et le plan, Seigneur, que tu as prévu pour nous, Seigneur. On avance, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Et Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, parce que tu multiplies, Seigneur, et les dons dans ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, des bénédictions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et exalté, Père éternel. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et la semaine continue avec le Seigneur. Amen. Nous avons des annonces. Amen. Du coup, on a, comme d'habitude, les jeudis, on se rencontre ici. Et ce jeudi, on a l'étude biblique. Amen. On continue à se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Jeudi à 19h30. Ensuite, le groupe des jeunes adultes. Et c'est le samedi à 18h. Et merci Seigneur, c'est avec notre frère Fissa. Amen. On doit prier pour les jeunes, amen.
Amen.
Tout le monde doit prier pour les jeunes, que le Seigneur les utilise et qu'ils puissent toucher d'autres jeunes. Amen. Et que le nom du Seigneur soit honoré aussi par des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes. Amen. Ensuite, on a dimanche prochain, on a un partage. Après le culte, on a l'agape. Amen. Tout le monde est invité. Et aussi tout le monde peut partager un plat. Ensuite,
voilà, donc après le repas partagé, vous êtes tous invités, on aura un temps, on va commencer une session de préparation au baptême. Donc j'ai pas, voilà, à la fin du repas, donc je sais pas quand on a fini, vers 14h peut-être. Voilà, donc si vous êtes intéressé ou vous vous posez la question de vous faire baptiser, et que vous n'êtes pas encore venu me voir, venez me voir. Si vous êtes déjà venu me voir, ben rendez-vous dimanche après le culte. Et puis, je rappellerai aussi certains, peut-être, qui ne sont pas là ce matin par rapport à ça. Mais si vous vous posez la question du baptême, vous n'avez pas encore passé par les eaux du baptême et que vous avez fait déjà un pas avec Christ et que vous voulez obéir aussi à son commandement, qui est de marquer ça par le baptême, alors venez me voir. Et si vous vous posez des questions, c'est aussi un temps, voilà, c'est sur plusieurs semaines, on va se préparer, comprendre aussi le sens du baptême. Et peut-être que c'est suite à ça qu'on se décide aussi pour certains. Voilà, donc venez me voir si vous voulez participer. Et puis pour ceux qui sont déjà venus me voir, rendez-vous dimanche prochain vers 14h après le repas.
Amen. Que le Seigneur ajoute des nouveaux brebis. Amen.
Amen.
Amen. Aussi, bientôt, nous serons un séminaire missionnaire. Amen. Le Seigneur, il nous a envoyé comme on a lu. Allez et prêcher l'évangile et faites des miracles et des prodiges. Du coup, nos frères, les missionnaires, et c'est leur désir, non, de partager. Et du coup, on peut venir aussi prier avec nos frères. C'est du 31 octobre au 2 novembre. On va continuer à annoncer et on continue à prier aussi, que le Seigneur bénisse cette réunion et nos frères qui sont déjà des missionnaires. Amen. Il y a un frère d'Égypte, je crois, Hicham Kamel, qui a un séminaire théologique et il prépare des ex-musulmans pour les envoyer après comme des missionnaires. Amen.
Amen.
Amen. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur, il continue à conquérir. Amen.
Amen.
Alléluia, Seigneur. Ensuite, et pour la nourriture.
Merci. Donc, je voulais simplement remercier tous les frères et sœurs qui apportent quelque chose pour bénir nos frères qui sont dans le besoin. Je ne veux pas dire nécessiteux parce qu'on est riche en Dieu. Donc, le besoin. Amen. Et donc, on me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux apporter, tout ça. Donc, la dernière fois, j'ai dit que ça allait, voilà. Mais cette fois-ci, je fais un appel. Donc, on a besoin de produits non périssables, c'est-à-dire du riz. Aussi, j'aime bien donner un petit peu de protéines, les sardines ou quelque chose qui soit pas trop cher. Et des choses pour le petit déjeuner, des biscuits, des biscottes, la marmelade, un petit peu de chocolat aussi, en tablette. Et pas de savon, pas de couches, pas de choses comme ça, parce que voilà. Mais c'est vraiment, il faut penser à ce qu'on pourrait donner aux gens pour le petit déjeuner et puis pour une petite collation, pour même les soupes aussi instantanées, des trucs comme ça, ça peut marcher. Merci. Soyez bénis.
Alléluia, Seigneur. Un dernier verset pour nous dire au revoir. On peut se lever et on va recevoir une parole de bénédiction que Paul donne aux Romains. Amen. C'est dans le livre, l'épître aux Romains, chapitre 15 et verset 13. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est notre source. Amen.
Amen.
Alléluia, Seigneur. Et il est disponible 24 sur 24. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous nous bénissons les uns les autres. Amen. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Nous nous bénissons les uns les autres, Seigneur. Père éternel, bénis mon frère, ma soeur autour de moi, Seigneur. Tu les remplis, Seigneur, de joie, de paix, Père éternel, de la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Une bonne semaine à tous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, l'emploi, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur. Et c'est ce qu'on a besoin, Seigneur, de je ne sais pas, un appartement, une maison, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, à tous nos besoins, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis-nous, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci beaucoup, Père éternel. Bonne semaine à tous. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Thank you.
grâce, Seigneur, ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Seigneur, ta parole est bonne et fidèle, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu oseras aller marcher au milieu de nous, Seigneur. Que tu allais faire de nous, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Notre Dieu, comme notre Dieu, comme notre Père, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu te remercies. Nous te remercions, Seigneur, que nous conduis, que nous guides, Seigneur, chez nous, Seigneur, au travail, partout, Seigneur. Pourvois, Seigneur. Pourvois, Seigneur, que ton peuple, Seigneur. Tout ce dont ton avis soit fait, tu connais.